Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des lycéens, dirigé par Hugues Sérapion, émission préenregistrée le 29 septembre 2012, diffusée pour la première fois le samedi 24 novembre 2012 de midi à 13h30, puis l'après-midi de 16h à 17h30, et dimanche 25 novembre dans la nuit de minuit à 1h30. Cette émission est réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez la cassette pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Amis auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau libre journal. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, émission préenregistrée, mais selon la formule consacrée, vos questions et vos lettres seront toujours les bienvenues. C'est, je crois, le mérite qui revient à notre radio, à Radio Courtoisie, que de s'interroger en profondeur sur le monde tel qu'il est. Et aujourd'hui, où l'actualité bruisse de rumeurs, non encore de guerre, j'espère, mais déjà de crises, de multiples crises, il faut nous interroger sur l'état du monde. Comment pouvons-nous distinguer ce qui va arriver? Comment pouvons-nous voir et donner quelques clés d'interprétation pour nos auditeurs? Car je pense que nous ne pouvons pas nous désintéresser du sort des habitants de cette terre, fussent-ils sous d'autres cieux que les nôtres. Alors, pour nous aider dans notre voyage autour de la Terre, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Guillou.
Bonjour.
Xavier Guillou, bonjour. Bienvenue à ce micro. Vous êtes titulaire de plusieurs doctorats. Vous avez de multiples activités de formation, de conférencier. Et vous êtes un spécialiste mondialement reconnu de la gestion des crises. Vous êtes également l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, comme par exemple « Quand la France réagira ». Et je crois que vous êtes aujourd'hui la personne idéale pour nous aider à mieux comprendre le monde, non seulement tel qu'il est, mais aussi là où il va.
On va essayer.
Peut-être pour nos auditeurs qui souhaiteraient, après l'émission, vous retrouver, peut-être peut-on leur donner l'adresse de votre site internet sur lequel il y a beaucoup de publications librement accessibles en ligne.
Oui, tout à fait. Ils peuvent aller sur mon site qui s'appelle xavierguillou.com et ils y retrouveront en effet à la fois des papiers, des articles, des rapports, mais aussi des émissions de radio, de télévision qui sont en libre accès.
Xavier Guillou, actuellement, les Français, nos concitoyens, ont un sentiment diffus, mais bien présent, que, entre guillemets, quelque chose ne va pas, qu'il y a quelque chose de pourri au Royaume de France, et les journaux, évidemment, se font de larges échos de cet état d'esprit. Est-ce que vous pensez, d'ores et déjà, de façon générale, que cet état d'esprit un petit peu morose est justifié, ou au contraire, qu'il y a une certaine complaisance des médias face à des difficultés qui, somme toute, ne sont que celles que tout État, toute société et tout individu doit traverser au cours de sa vie?
Oui, je pense qu'on a une saturation médiatique qui, aujourd'hui, entretient un climat anxiogène. Il était déjà là depuis quelque temps. Enfin, je veux dire, il s'accentue actuellement parce que bon, les médias devant travailler leur audience essayent de stimuler le corps politique pour voir un petit peu où on va, et comme le corps politique soit ne répond pas ou soit est dans l'hystérie, notre président ou le premier ministre, on est plutôt dans du langage convenu, et si on prend Montebourg, on est plutôt dans l'hystérie. Donc, je veux dire, du coup, ça permet d'entretenir beaucoup de confusion au niveau de la perception des événements, et puis en même temps, ça ne donne pas de ligne d'horizon aux Français, sinon une ligne d'horizon uniquement fiscale, de pression fiscale ou de pression budgétaire ou de désastre économique avec des courbes de chômage qui montent, qui sont absolument pas surprenantes. Enfin, tout ça n'est que normal, si j'ose dire.
Normal parce que
on est depuis maintenant 2005-2006, on est dans une, non pas une succession de ou une multiplication de crises, mais dans une grande crise de modèle, qui voire une des ruptures de paradigme sur le fond. Et qui affecte notamment l'ensemble des grands maîtres d'ouvrage occidentaux, puisqu'on s'est piégé nous-mêmes dans toute une ingénierie à la fois financière, sociétale, politique, derrière la fin des grandes idéologies Est-Ouest, et puis l'émergence de cette globalisation et mondialisation. Donc aujourd'hui, on en paye un petit peu les effets déviants. Avec toute cette économie casino qui a été montée, et donc on est dans une phase aujourd'hui où l'ensemble de nos économies sont freinées ou à l'arrêt. Donc on se retrouve avec des surcapacités à la fois industrielles, financières, bancaires, etc. Et puis des politiques qui savent pas comment prendre le dossier, comment prendre le problème. Donc on se retrouve avec de la casse sociale et on se retrouve avec des gens qui ne comprennent pas. Voilà. Je crois que ce qui caractérise peut-être la France, c'est soit elle comprend moins que les autres ce dont je doute, parce que les Français sont pas idiots, mais je crois que les Français pratiquent le déni de réalité, parce que ils croient encore d'une certaine manière aux vertus de l'État-providence, ou à l'illusion de l'État-providence. Ils essayent de gagner un peu de temps par rapport... je crois qu'on est aujourd'hui dans une situation où à la fois les médias, par la pression médiatique, entretiennent cette illusion, en essayant d'obtenir du discours politique une espèce de...
D'assurance.
Oui, de réassurance. Je dirais pas d'assurance, mais de réassurance du système, parce que je crois que personne ne croit à l'assurance aujourd'hui, au premier niveau d'assurance. Donc une espèce de réassurance qui passe par la pression fiscale. Donc on va taxer les riches, on va aller taxer les retraités, on va aller chercher ici un milliard, un autre milliard, etc. Alors que le problème, c'est pas un milliard ou deux milliards,
c'est le modèle
qui est en cause, et donc on peut essayer de raboter dans tous les sens. On peut faire les fonds de poche, de toute façon c'est pas les fonds de poche, c'est la maison qu'il faut changer.
Vous dites qu'on est en train de changer de monde.
Oui, on change de monde. C'est la question fondamentale, c'est que depuis 2005 nous sommes sur des ruptures de paradigme extrêmement importantes au niveau mondial, donc et pas uniquement au niveau occidental. Mais dans ces changements dans ces ruptures de paradigme, il y a une crise de modèle qui est portée par l'Occident et qui est aujourd'hui extrêmement violente et qui est périlleuse, parce que alors elle est périlleuse pourquoi ? Elle est pas périlleuse sur le plan, je dirais, d'une remise en cause de nos capacités, de nos moyens, etc. Parce que on vit quand même une crise riche, hein, donc. Notre problème, ce sont des problèmes de pouvoir d'achat, d'employabilité, de style de vie, on n'est pas sur des problèmes de vie et de mort comme d'autres pourraient l'être au niveau mondial. Hein. Je rappelle quand même que les deux tiers de l'humanité aujourd'hui vivent avec moins d'un dollar par jour, et que leur problème, c'est d'arriver à avoir l'accès à l'eau ou à la santé, ou d'essayer de vivre tous les jours à peu près normalement, quoi. Nous, on n'est pas dans ces considérations-là. Nous, nos problèmes sont des problèmes de riches. Mais aujourd'hui, on est en train
d'aller... Même si il y a un nombre très important de Français, comme l'a montré certaines études récentes, est à 50 euros par mois pour finir le mois.
Oui, non, mais je ne dis pas que...
Que ce soit pas facile.
Non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas une certaine précarité. Mais il y a quand même...
C'est pas une question de vie et de mort, comme vous le dites.
Non, d'accord, on n'est pas... On n'est pas comme, par exemple, aujourd'hui dans certains pays arabes où votre existence peut être remise en cause du jour au lendemain parce que vous allez avoir une milice islamique qui va débarquer dans votre village et qui va vous imposer la charia, etc. Enfin bon, on n'est pas dans ces niveaux de pression, de tension. Certains, peut-être dans certains quartiers, pourraient nous dire qu'on est déjà dans ces... des présomptions de tension, mais on n'est pas
dans ça. Ça reste heureusement des cas
isolés. Oui, c'est très 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 marginal, et on est quand même dans un, on a quand même, si jamais il faut vraiment aller dans un, comment dire, un assainissement de la situation, cette précarité, on a des capacités, on a des moyens, etc. Enfin bon. Bon. Je dirais que aujourd'hui le problème de la plupart de nos pays, notamment de la France, c'est d'être sur un faux discours égalitaire et de ne pas pratiquer une équité de traitement justement sur cet assainissement des modèles. Mais bon, il faut être capable de pouvoir traiter toutes ces surcapacités et ce redéploiement de moyens. Et aujourd'hui, on est en train de le vrai problème, c'est qu'on est en train de franchir des seuils qui peuvent être incapacitants et qui peuvent nous bloquer.
Quel seuil ?
Bah, je dirais que il faut, par exemple, pour donner un ordre d'idée aux auditeurs, il faut savoir que aujourd'hui, pour pouvoir traiter les problèmes simplement bancaires et les dettes souveraines, pour essayer de nettoyer ça, se retrouver avec un petit peu d'oxygène, parce qu'aujourd'hui on manque d'oxygène dans la problématique dans laquelle nous sommes rentrés depuis 2005. Il faut trouver l'équivalent d'un PIB européen, d'un bon PIB européen, pour nettoyer les problématiques simplement sur l'Europe.
Hein. Qu'est-ce que vous appelez trouver un PIB européen ?
Il faut trouver à peu près 1300 milliards d'euros pour...
Et pour faire quoi ?
Pour nettoyer, je dirais, la partie la plus atrophiante aujourd'hui, à la fois de la crise bancaire et des dettes souveraines. Voilà.
Et on le donnerait à qui, ces 1300 milliards ?
Ça serait un espèce de grand plan Marshall financier qui devrait être coordonné par... comme dit Monsieur Fabius, maintenant s'il utilise ce terme-là, un quartet, je dirais de grands puissants qui arriveraient à réguler, je dirais, la crise actuelle. Autant dire que c'est quasiment impossible.
Mais cet argent, il ne peut venir que de l'impôt qui est déjà à des niveaux très élevés, soit de la dette qui est également à des niveaux très élevés. Donc je vois pas bien.
Non, c'est impossible. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est ça. Pour moi, c'est aujourd'hui, on est rentré dans une espèce de tunnel où on voit bien ce qu'il faudrait mettre en œuvre, mais c'est de l'ordre de, c'est de l'ordre de logique que l'on a connue en post-conflit, hein, quand on a réglé un certain nombre de problèmes en Europe. Mais on est passé par des guerres pour ça. Il faut voir quand même qu'aujourd'hui, on arrive à des niveaux de dette équivalents à ce que l'on a connu lorsqu'on a eu des grandes guerres mondiales.
C'est-à-dire qu'en fait, on a le même niveau de dette que s'il y avait eu un conflit majeur, alors que nous avons eu 60 ans de paix.
Voilà, sans guerre, donc sans destruction, et donc sans traumatisme majeur, hein, explicite, et donc sans capacité de pouvoir faire émerger un mode de gouvernance, je dirais, un peu musclé pour pouvoir sortir de la crise. Parce que je pense que pour pouvoir sortir de la crise, il ne faut pas être dans un mode de management consensuel, il faut être dans un mode de management un peu plus musclé. Or aujourd'hui, c'est pour prendre ces 1300 milliards d'euros qu'il faudrait trouver, à peu près 2000 de l'autre côté au niveau américain, il faudrait mettre aux commandes des gens qui ne sont pas ou des bureaucrates ou des mous en termes de casting. Or, aujourd'hui, les seuls qui pourraient vraiment manœuvrer sur le plan européen dans ce domaine-là et qui savent qu'ils peuvent le faire, d'autant plus qu'ils ont ils ont des moyens, hein, ce sont les Allemands. Et je dirais un retour de l'Allemagne en termes de pilotage, sortie de crise de l'Europe, est très très mal ressenti, très mal vécu. Regardez la dernière déclaration de Berlusconi il y a 8 jours sur l'hégémonie allemande, le retour de l'hégémonie allemande. C'est pas supportable, quoi. Voilà. Et ce serait la même chose du côté américain. Il faudrait de nouveau avoir un management extrêmement pas un management à l'Obama, quoi, un management extrêmement
tout rude. Ça, tout ça pour sauver finalement le système que l'on a toujours connu.
Tout ça pour, même pas sauver, pour essayer au moins de retrouver de la... Parce que derrière, il y a des fondamentaux qui sont touchés et altérés, sur lesquels je reviendrai, qui sont très dimensionnants pour la suite. Ça, c'est simplement pour retrouver un peu d'oxygène et se remettre au travail. Mmh. Je veux dire, se remettre dans une configuration où on peut traiter ces ruptures de paradigme sur le fond et dans le temps, parce que il faudra du temps pour pouvoir.
Mais alors, justement, Xavier Guillou, moi je comprends pas bien, puisque d'un côté vous nous dites que finalement, si l'on veut pouvoir continuer à exister comme on l'a toujours fait, il faut un sursaut finalement. Et ouais. De l'autre côté, vous nous dites qu'il y a un changement de monde qui implique un changement de modèle, que c'est la fin de l'État-providence. Ouais. Alors c'est l'un ou l'autre, c'est-à-dire soit
c'est deux choses qui sont
continues. Soit on change de modèle, et dans ce cas-là, il va falloir expliquer aux Français que il n'y a plus d'État-providence ou à un niveau qui est complètement différent de ce qu'ils ont connu, ou au contraire, on dit aux Français, écoutez, on peut toujours maintenir cet État-providence et plus généralement les structures de société que vous avez toujours connues et auxquelles vous êtes attaché, mais il faut faire cet énorme effort. Alors vous qu'est-ce que vous... Alors, parce que ça ne peut pas être les deux à la fois.
Non, je pense qu'il y a deux dimensions, si vous voulez. Il y a sur le fond toute une réflexion à avoir sur ce qui dimensionne les paradigmes. Le paradigme sur lequel nous vivons depuis un peu plus d'un siècle, depuis la fin de la moitié du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, il est articulé sur toute cette révolution industrielle, manufacturière, révolution urbaine, et l'ensemble de cette mutation qui aujourd'hui mène le monde vers quand même un changement radical de structuration des sociétés. Il faut bien avoir ça en tête. Je rappelle toujours qu'au début du 20e siècle, on était à 15-20% de population urbaine. Fin du 20e siècle, 40% de population urbaine. Et nous allons vers les 2030-2040 à 60% de population urbaine.
Niveau mondial.
Niveau mondial. Donc avec en plus de ça une population qui a explosé sur le 20e siècle. Donc nous sommes rentrés dans toutes ces ingénieries de masse, de massification, production de masse, consommation de masse, communication de masse, idéologie de masse, même les armes de destruction de masse. Je rappelle toujours ça, toute cette idéologie de la massification. Donc on a et pour pouvoir faire tourner l'ensemble de cette dynamique, on a créé une architecture qui est basée sur une énergie à haut rendement, facile à traiter, qui est une énergie basée à partir des énergies fossiles. Voilà. Or, cette problématique énergétique qui est au cœur des changements de paradigme aujourd'hui, elle était suffisante pour l'émergence d'un milliard d'individus qui ont structuré, je dirais, toute cette aventure que nous on appelle le progrès, la modernité, la matérialité, enfin tout ce qu'on peut imaginer, qui a répondu à un certain nombre d'impératifs de la massification. Mais pour une petite partie de la planète, simplement 10% de la planète a profité, je dirais, de cette ingénierie-là, avec des comportements énergétivores. C'est-à-dire, il faut bien être conscient que toute cette énergie fossile que l'on a utilisée pour alimenter le modèle, c'est-à-dire l'urbanisation d'un côté, de l'autre côté la motricité, la mobilité, qui a permis de développer toute une valeur ajoutée autour de ce phénomène de l'industrialisation, de la consommation de masse, etc.
Et de la mécanisation de l'agriculture, qui permet de nourrir ceux qui ne produisent plus de leur propre pain quotidien.
Tout à fait, puisqu'on est sorti des modèles féodaux, ruraux, et même des modes de gouvernance qui étaient associés, plutôt théocratiques, aristocratiques et autres, pour aller vers ces modèles beaucoup plus adaptés aux logiques de masse, qui sont l'émergence de la démocratie telle qu'on l'a connue, etc., telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le problème, c'est que ça a très bien fonctionné pour un milliard d'individus dont nous faisons partie, nous, les Européens, les Américains, etc. Mais comme on a fait émerger, sur la fin du XXe siècle, une stratégie de duplication de notre modèle sur un nouveau milliard qui est, qu'on dit émergent, j'aime bien ce terme-là, on dit émergent, en fait C'est 300 ouais. millions de Chinois, 250 millions d'Indiens, 250 millions, 300 millions de Sud-Américains, 100 millions de populations arabo-musulmanes autour de la Méditerranée.
Les nouveaux Occidentaux.
Oui, mais qui, en fait, étaient dans
d'un
nos wagons.
Économique, j'entends.
Oui, mais étaient dans nos wagons derrière la décolonisation, enfin la colonisation et la décolonisation, et sont rentrés progressivement, desserrant leur propre système, dans, cette évolution du monde. Sauf que le modèle, il est conçu pour 1 milliard, il n'est pas conçu pour 2 milliards.
Donc en fait, Xavier Guillou, vous êtes en train de nous dire, il n'y en aura pas pour tout le monde. Notamment, il n'y aura pas de pétrole pour tout le monde.
Il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être très clair, ça fait depuis plus de 30 ans, moi je peux en parler de manière extrêmement précise, parce que j'ai eu des responsabilités dans le passé où j'ai eu à travailler sur ces dimensions-là. Il y a 30 ans, la plupart des grands think tanks du monde, avec un certain nombre de grands experts, y compris des politiques, ont alerté les décideurs sur l'urgence de réfléchir à cette transition énergétique qui était absolument indispensable par rapport justement à cette duplication du modèle et cet élargissement, je dirais, des réponses à cette massification du monde. Sachant qu'on passe quand même de 6 milliards à 9 milliards dans les 30 ans qui viennent.
Et on passe d'un milliard à 3 milliards, ceux qui bénéficient ou veulent bénéficier du mode de consommation occidental. Voilà.
Alors, ce mode de fonctionnement et de consommation tel qu'il est au niveau occidental, il absorbe aujourd'hui quasiment 70 à 80% de la production énergétique telle qu'on la connaît avec les énergies fossiles, le gaz, pétrole, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé à un plateau. Alors, le fameux peak oil.
C'est-à-dire le début du commencement de la fin. Pour dire les choses de façon simple pour nos auditeurs.
Aujourd'hui, ça fait depuis 30 ans qu'on gratte partout pour essayer de trouver des réserves supplémentaires, etc. On est laborieusement passé de 70 à 80 millions de barils jour pour pouvoir répondre à peu près grosso modo à la demande. Mais on sait que la demande mondiale avec l'arrivée de la Chine, de l'Inde et des autres grands émergents, eh bien, c'est pas 80 millions de barils jour qu'il va falloir. C'est 120, 130. Donc là, le delta entre les deux, ce problème, c'est ce que j'appelle ces franchissements de seuil.
Oui, d'accord, que vous expliquez en début d'émission.
Voilà, qui sont dimensionnants et qui mettent les modèles en mode échec. Donc là, on les a pas.
Mais alors c'est vrai que pour le pétrole, il y a c'est ce double étau. Le premier qui est celui de l'augmentation de la consommation et du nombre de personnes qui consomment.
Oui.
Et également celui de la fin des réserves, à un horizon qu'on maîtrise mal, mais la fin des réserves.
Oui, parce que là-dessus, il y a beaucoup de stocks dans tous les sens, parce que les pays pétroliers entretiennent des faux chiffres, les pétroliers aussi, enfin tout le monde se raconte des histoires, parce que si jamais on racontait la vraie histoire, il y aurait des effets de panique.
Ouais, des effets qui n'arrangeraient personne. Mais néanmoins, aussi sur le pétrole, les nouvelles sont mauvaises. Avec les schistes bitumeux, les gaz de schiste, etc., on a quand même une véritable révolution.
Ça ne réglera pas.
Les États-Unis sont devenus exportateurs nets de gaz, si j'ai bien compris ce qui s'est passé.
Oui, mais je ne veux pas entretenir l'illusion dans ce domaine-là, parce que je pense que le problème, c'est pas d'aller chercher 2 millions ici ou 1 million ici. Le problème, c'est qu'on est dans une telle dynamique aujourd'hui, ça va tellement vite.
C'est que de toute façon, il n'y en a pas assez. Vous vous dites quelles que soient les bonnes ou mauvaises nouvelles, la tendance, elle est là.
La tendance est à la tendance est à une tension permanente et de plus en plus forte sur les marchés de l'énergie. Avec en plus de ça, vous avez des phénomènes aggravants comme, par exemple, ce qui s'est passé avec Fukushima.
J'allais y venir. Quand on voit que l'Allemagne et le Japon ont annoncé officiellement.
Il y en a d'autres, il n'y a pas que l'Allemagne et le Japon, il y a aussi la Suisse, l'Italie, tout le monde s'y met. Enfin,
leur sortie du nucléaire au moment où on est en train de pomper, bon, c'est une image que nos auditeurs ne le prennent pas de façon première, mais alors qu'on est en train de pomper les dernières gouttes de pétrole, vous parliez des groupes de réflexion qui s'attaquaient à ce problème il y a une vingtaine d'années, on peut se demander s'ils ont vraiment été écoutés. S'il n'y a plus de pétrole et qu'il n'y a pas de production d'énergie hydroélectrique ou nucléaire, on revient à la charrette à bras.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie.
Sans aller jusque-là, aujourd'hui, si vous voulez, on a une problématique de tension entre les marchés d'énergie qui génère des tensions sur le modèle. La première tension qu'on a eue sur le modèle, c'est la hausse des cours de l'énergie. Enfin, personne ne se rappelle, personne ne veut se rappeler, mais 2006-2007, on était quand même, juste avant l'effondrement des marchés financiers, on était quand même sur des ABAC à 150, certains imaginaient $200 le baril. Quand vous discutez avec les pétroliers, ils disent, bon, pour l'instant, on a calmé le jeu, mais ces calculs qu'on a fait à l'époque peuvent réémerger du jour au lendemain dès que la croissance mondiale redémarre, que la Chine retire sur les marchés. On peut remonter à $200-$250 le baril. Il faut jamais oublier que c'est quand même cette hausse de l'énergie qui a provoqué une hausse des taux, que c'est cette hausse des taux qui a révélé toute la cavalcade qui avait été mise en place par monsieur Clinton à l'époque, démocrate américain, sur les prêts hypothécaires pour donner l'illusion au bas de la classe moyenne américaine
qu'elle pouvait devenir riche ou qu'elle l'était encore.
Voilà, c'était quand même une très belle imposture politique et financière. Et c'est cet effondrement des subprimes qui a révélé cette économie casino basée sur les hedge funds et compagnie, qui a mis en difficulté les États très rapidement. Les États... On a eu un coup d'arrêt sur nos économies parce que plus personne n'avait confiance. La crise de confiance s'est installée. Et les premiers impacts ont été sur quoi ? Ils ont été sur l'immobilier. Hein, l'immobilier, tout ce qui fait quand même le côté emblématique de la ville. Crise sur les appartements, les maisons, etc. Enfin, encore plus aux États-Unis que chez nous. Et puis sur le monde de l'automobile. L'automobile, la mobilité, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les deux pierres de soutènement de l'ensemble du modèle ont été placées en mode échec, et en difficulté. Les États ont été obligés de renflouer pour faire en sorte que le système ne s'arrête pas, ne s'effondre pas. Hein, parce qu'on est dans une situation très différente de 1929 par rapport, à ces contingences économiques et industrielles. Et ils se sont endettés comme c'est pas permis. Derrière, on a eu la crise bancaire. Et aujourd'hui, on a une espèce de jeu de taquin entre les banquiers et les États pour savoir à qui va se refiler la patate chaude de l'assainissement de ce coup de butoir qu'on vient d'avoir. Mais ça règle pas le problème sur le fond, parce que sur le fond, de toute façon, la transition énergétique, il va falloir l'engager avec 30 ans de retard, parce qu'il y a 30 ans, quand on a exposé ces questions-là aux politiques, on leur a dit il y a plusieurs types de scénarios. Il y a des scénarios durs, avec un impact vers 2010-2015, si jamais il y a un réveil trop fort de la Chine,
etc. Rappelez-moi, nous sommes en 2012.
Oui, mais nous sommes en 1980 quand je vous parle de ça, d'accord ? Et moi, je me rappelle très bien, j'avais des responsabilités à l'époque au ministère de la Défense, plus précisément dans les services secrets, donc j'avais des responsabilités dans ce domaine-là. On avait des travaux de prospective qu'on menait au niveau mondial. On avait un ministre à l'époque qui était un homme remarquable, qui s'appelait André Giraud, qu'on ne peut pas sous-estimer sur ces questions-là, parce qu'il était quand même X-mine. Il avait dirigé le CEA, il avait dirigé le ministère de l'Industrie, il avait même mis en place un centre de prospective au niveau du ministère de l'Industrie. J'invite les auditeurs à relire les travaux de Thierry Godin de l'époque. De l'époque, 1975-1980, ça c'est l'époque où Raymond Barre, Giraud, etc. avaient mis en place plein de groupes de prospectives pour imaginer le monde de demain. Il a écrit un livre qui s'appelle 2100, l'Odyssée du prochain siècle. Vous prenez ce livre-là, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, les problèmes de modèle, les problèmes de migration de population, les problèmes démographiques, les problèmes de changement de paradigme, etc. étaient explicités à l'intérieur. Il y a 250 pages, on ne peut pas trouver, mieux. On ne peut pas dire qu'on n'était pas... On n'était pas clair ces questions. Il y a même des gens comme par exemple des grands décideurs comme Alain Pierrefitte, qui était sinisant, qui connaissait bien la Chine, qui nous avait alerté sur ce qui était derrière le discours de Deng Xiaoping, le réveil de la Chine. Et lui-même nous avait dit, non, vos ABAC que vous avez sur 2040-2050, ça ne fonctionnera pas parce que ce réveil va tirer l'ensemble du fonctionnement de ce monde émergent et va ramener la courbe beaucoup plus près. D'après vous, qu'est-ce qui se passe quand vous proposez aux politiques un point de contact sur 2010, un deuxième scénario sur 2030, etc. Moi, un troisième sur 2050.
En 1980.
Oui, sur 2050. Qu'est-ce que le politique choisit? eh bien, il choisit 2050. Voilà, parce que c'est le plus facile. Les seuls qui, moi je me rappelle à l'époque, les seuls qui se sont dit, c'est là où la qualité du questionnement hein, sur le plan stratégique est importante. Moi, je me rappelle très bien, notamment, d'une discussion avec Michel Rocard, qui est quand même un personnage assez étonnant. Et lui avait dit, 2050, sûr, c'est réconfortant, c'est, en termes de intellectuel, c'est, bon, pour nous, politiques, c'est, mais il faut travailler les effets de surprise et les effets de rupture. Et il dit, il faut vraiment mettre le paquet pour que, être à l'heure à une échéance de 2010-2015, pour être sûr d'être vraiment, efficient pour 2050. Mais c'est le seul. Tous les autres sont partis sur 2050. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, ben, il y a eu la fin du jeu Est-Ouest. On a dit, bon, ben voilà, maintenant, il n'y a plus que les dividendes de la paix à assurer. On a promis à nos sociétés que maintenant, il n'y a même plus besoin de travailler, que la duplication de notre modèle sur le milliard émergent...
Ce milliard émergent
qui allait travailler pour nous. Que ce que nous avions imaginé, ce qu'on a imaginé, qu'on a mis laborieusement en place pendant quasiment un siècle, là, on allait le faire en 30 ans, d'où toute cette économie casino qui a été mise en place avec des stratégies d'effet de levier au niveau financier complètement aberrant. Enfin, je veux dire, là où théoriquement on était capable en termes d'occurrence du risque d'assumer sur un rapport de 1 à 15, c'est-à-dire pour un dollar placé, on en repasse 15, on était arrivé à un truc où pour un dollar placé, on était à 37 d'effet de levier. On reprêtait 37 fois, s'imaginant que avec la contraction espace-temps, on allait avoir des retours sur investissement colossaux. Et donc, ce qu'on a vendu, et notamment ce que nos politiques ont vendu pour alimenter cette imagerie de l'État-providence, c'est que le Chinois, l'Indien, le Brésilien, etc., étaient nos nouveaux supplétifs sur le plan économique, et qu'ils allaient, d'une certaine manière, on allait, par le biais des délocalisations et de toute cette, cette économie qu'on a déportée, nous ramener des dividendes et des royalties, et que donc maintenant, on pouvait rentrer dans une société du loisir, une société où on allait de moins en moins travailler, et puis une société de services où on n'allait plus que consommer. Nos sociétés aujourd'hui sont entre 70 et 80% de valeur ajoutée sur la consommation. Voilà, on n'est plus dans la créativité ou la création de valeur ajoutée.
En fait, vous dites qu'il y a eu un double mouvement, c'est que d'une part, nos sociétés ont voulu refuser le fait que l'histoire était tragique, hein, c'est-à-dire qu'ils ont voulu toucher les dividendes de la paix, c'est-à-dire qu'ils ont voulu penser qu'il n'y avait plus de menace majeure dans le monde, à quelque niveau que ce soit pour nos sociétés. Et deuxième, ça c'est une erreur qu'on pourrait appeler historique, politique, et ils ont une autre erreur plus étonnante, puisque s'étant reconcentrés sur la question économique, sur la question de la création de richesse, ils font une deuxième erreur qui est de croire que, eh bien, une société qui ne produit que du service entre elles est toujours à la pointe de ces innovations et de ces ruptures technologiques qui font le monde de demain. Alors, ce n'est pas vrai partout, parce qu'il y a une vraie différence entre certains, et ce n'est pas péjoratif, mais certaines provinces reculées de France et la Silicon Valley. Donc il y a des logiques en Occident très diverses, et il y en a qui continuent à vouloir justement préparer le monde de demain pour être toujours à la pointe. Mais néanmoins, ce que vous dites, c'est que globalement, il y a ces deux démissions finalement. Une démission politique, historique, et une démission même économique.
C'est une démission en termes de vision, hein. C'est plus grave qu'une décision simplement politique ou économique. C'est une démission en termes de vision. C'est-à-dire que, on est parti du principe que, le reste du monde allait faire ce qu'on avait envie de faire, hein. Donc, alors qu'on était en train de déconstruire, tous les éléments qui, ont permis, à nos sociétés, d'avoir la sérénité, la prospérité, la sécurité dans laquelle on a baigné pendant 60 ans. Donc on était en train de déconstruire ce qui nous avait garanti ce niveau, je veux dire, d'efficience et de richesse. Donc on s'est pas posé la question de savoir ce que ça allait générer.
Alors justement,
aujourd'hui on voit bien que le monde de l'après-guerre froide, c'est pas un monde de bisounours, hein, c'est un monde où on a des réémergences
de puissance,
hein, de volonté de puissance. On voit bien que derrière cette tension sur la clé de voûte que constitue l'énergie, eh ben on n'a pas que des tensions sur les marchés, on a aussi des tensions territoriales hein, très fortes. Enfin, quand vous regardez tout ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient aujourd'hui, même par exemple ce qui se passe sur les manœuvres, ces fameuses manœuvres de la Chine sur l'archipel.
Alors,
on voit bien qu'on est, on a aujourd'hui tout un tas de jeux d'acteurs
qui se mettent en place,
alors, qui sont très dimensionnants, qui se mettent en place, et on n'est pas du tout dans une vision.
Très intéressant, Xavier Guillou, parce que justement, les temps actuels nous permettent de nous interroger sur, avec tous ces présupposés que nous avons vendus à nos pays, à nos structures, à nos populations, c'est intéressant de voir comment justement nous gérons en bien ou en mal le monde tel qu'il va, et notamment ces crises.
Alors, si vous voulez, là-dessus, moi, ma conviction au contact des décideurs, notamment occidentaux, c'est que je vous parlais de cette crise, cette grande problématique en termes de vision, et je pense qu'on a en plus de ça, elle est doublée d'une crise du regard. Ce que j'appelle, j'ai repris ça de ma dernière lecture de Amin Malouf dans Les Désorientés, et je trouve que le terme est très approprié. On n'a pas voulu se projeter dans le futur. Donc ça, c'est pas un aveu d'impuissance, mais je dirais c'est une démission en termes de pouvoir et de puissance. Donc, faut pas s'étonner si après on se retrouve aujourd'hui avec parce que 3 décennies c'est rien à l'échelle de l'histoire, c'est même pas une tête d'épingle. Enfin, je veux dire, donc faut pas s'étonner si aujourd'hui nous nous retrouvons chahutés, ballottés, avec un certain nombre d'interlocuteurs qui nous respectent plus au niveau mondial. Bon. La deuxième chose, c'est que...
Qui ne nous respecte plus?
Quand vous prenez, par exemple, les Chinois, vous prenez Erdogan en Turquie, vous prenez Poutine en Russie, etc. Enfin, ils ne nous considèrent plus, si vous voulez, comme étant dans des logiques... Peut-être encore les Américains. Peut-être les Américains sont encore... je ne sais pas forcément s'ils sont respectés, mais ils sont craints, parce que il y a une surpuissance militaire, et puis il y a l'arme du dollar qui est là derrière, et puis il y a quand même un état d'esprit aux États-Unis qui reste encore
un petit peu différent de la vieille Europe.
Très différent de la vieille Europe. Alors on caricature ça en disant que c'est le patriotisme américain. Je pense que c'est bon, ils sont encore très très énervés par l'aventure américaine, et donc ils y croient encore, voilà. Mais pas l'Europe. L'Europe ne croit plus en rien, donc je veux dire, elle est désenchantée, déchristianisés, démotivés, enfin bon, je veux dire, et ça pose même le problème de la capacité de réaction de l'Europe aujourd'hui, parce qu'on est tellement affadi, tellement indolent, tellement...
Pour réagir, il faut croire en soi-même et vouloir bâtir le futur.
Il faut avoir non seulement des capacités de ressort, mais il faut avoir aussi un peu d'oxygène, il faut avoir... et tout ça, et aujourd'hui, on est plutôt dans une espèce d'embolie collective, qui fait que bon, je pense que nos capacités de réaction sont un peu atrophiées. Mais si je reviens sur ces jeux d'acteurs qui sont très dimensionnants dans le monde aujourd'hui, par rapport aux espaces-temps qu'on suit sur le plan géopolitique, bon, on n'a pas du tout anticipé ces évolutions-là. Hein, on a cru que tout le monde et on a raconté à tout le monde, et je vois bien tous nos faux clercs qui alimentent les tribunes, des colloques, des séminaires, etc. Bon, tous les dirigeants du monde entier doivent rentrer dans une certaine appréhension de la démocratie, doivent respecter les droits de l'homme, doivent, bien entendu, nos visions universalistes s'imposent de fait, etc., etc.
Mais ça, plutôt la marque d'un peuple ou d'une civilisation conquérante que de vouloir imposer à tort ou à raison sa vue sur le monde.
Non, parce que c'est des approches qui sont très défensives et qui sont avec une vision a posteriori et pas avec une démarche a priori. On n'a pas fait évoluer ces concepts ou ces réflexions qui sont inhérentes à ces grands principes. On considère que ce sont quasiment des produits marketing qu'il faut que l'ensemble des pays du monde adoptent.
Mais vous vous dites qu'il n'y a rien de profond derrière.
Non, c'est superficiel. Moi, je le vois bien. Enfin, je veux dire, quand on regarde la plupart de la gestion de crise que l'on a au niveau international aujourd'hui, bon, les Américains, ils arrivent, même nous, les suiveurs dans ce domaine-là, on s'installe en Afghanistan, on s'installe en Irak, par exemple, ou même pas aujourd'hui en Afrique ou ailleurs. Enfin, bon. Et puis, on donne... Il y a une espèce de checklist hein, que la plupart des pays connaissent. Donc, c'est... On va vous empêcher de vous étriper. Donc, on va mettre en place une résolution de l'ONU que personne ne respecte, mais tout le monde contourne. Donc, on fait un peu de containment. Et puis après, on dit, bon, bah, écoutez, si vous voulez bénéficier de nos subsides pour pouvoir... parce qu'on essaye quand même d'acheter la paix. Donc, essayez de faire des élections, quoi. Donc, essayez de faire en sorte que chaque
communauté...
Faites un effort. Essayez de faire en sorte que chaque communauté... aille voter. Donc on organise des élections. Regardez en Afghanistan, ils ont organisé des élections. En Irak, ils ont organisé des élections. Mais par derrière, vous avez des économies mafieuses qui se mettent en place, etc., qui détournent l'argent qu'on leur donne. Enfin, il n'y a pas de... On ne met pas ça sous une logique de gouvernance, avec des régulations, des contraintes. Enfin, on n'essaie pas de guider le truc. Bon. Alors on est content parce qu'on a mis en place une assemblée constitutive, etc. Voire on envoie un ou deux constitutionnalistes pour essayer d'avoir... un état de droit, quoi.
On rédige une constitution.
Voilà. Puis après, on s'étonne qu'on a des constitutions qui sont ineffectives, enfin, qui sont pas effectives ou qui sont dénaturées. Puis une fois qu'on a ça, on se dit, ça y est, on a mis en place une démocratie. Et on pense que parce que on va leur distribuer des iPads et et qu'ils vont consommer du Coca-Cola et avoir des Nike aux pieds, ça suffit pour rentrer dans la modernité. Voilà. Et puis on se retrouve après avec, comme on a en Afghanistan ou en Irak, 10 ans, 15 ans après, avec des situations qui sont des situations ou de guerre civile ou d'économie mafieuse. Il n'y a pas d'État-nation qui s'est mis en place, mais au contraire, on a des jeux communautaires beaucoup plus aigus. On a des territoires qui sont en logique fractale. Et puis nous pensons que notre simple discours sur les droits de l'homme suffit pour pouvoir calmer le jeu ou donner l'illusion que ça peut fonctionner. Voilà. Et donc on est dans une espèce de schizophrénie où donc on raconte à nos sociétés que bah, finalement tout ça est un peu sous contrôle, comme du reste on raconte que tout est sous contrôle sur le plan financier et bancaire, alors que rien n'est sous contrôle. Hein, on le voit bien jour après jour. Vous avez une information qui est donnée par les autorités le lendemain, elle est contredite par les événements quotidiennement. Et donc on est dans cette espèce de glissement, hein, comme des plaques à vent, vous savez, en montagne, là, de glissement permanent, et où on ne fait que entretenir nos populations dans l'illusion qu'on peut repousser constamment le problème, alors que les murs, pas le mur, mais les murs se rapprochent. Et de l'autre côté, ben, on est de moins en moins respecté par les acteurs internationaux qui se disent, bon, ben, si l'Occident continue comme ça, nous, on a des places à reprendre. Pourquoi ne pas les reprendre maintenant, puisque de toute façon, la crise de modèle est telle qu'on va arriver à un moment ou à un autre sur une logique de blocage et qu'il va falloir la régler, cette logique de blocage. Là, par exemple, toutes les crises que nous avons sur le Proche-Orient, amplifiées par des choses que l'on a, qui sont moins visibles sur l'Afrique, sur les eaux territoriales entre Japon, Chine, Taïwan, les détroits, etc. Tout ça, ce sont des signaux faibles qui sont précurseurs d'émergence de niveaux de tension qui vont s'affirmer sur les 10 ans qui viennent. Voilà. Donc,
alors, je rappelle à nos auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Courtoisie et que j'ai le plaisir de recevoir Xavier Guillou, spécialiste international de gestion de crise, pour nous entretenir sur le monde. Et Xavier Guillou, reprenons peut-être un petit peu les derniers événements et notamment au Proche et au Moyen-Orient. Qu'avez-vous pensé de tous ces printemps arabes qui nous ont été vantés et que pensez-vous de l'action notamment des pays occidentaux, européens et particulièrement de la France?
Alors écoutez, sur ce sujet-là, je fais partie des quelques rares, experts ou témoins de notre siècle là qui crapaille beaucoup sur le terrain, qui s'est mis un peu en travers des idées reçues sur ce printemps arabe qui est en train de se transformer en hiver islamique.
Ça c'est quelque chose que vous affirmez
oui,
certainement. C'est-à-dire ce printemps arabe, printemps de la démocratie tel qu'il nous a été présenté, vous pensez que c'est plutôt...
Moi, ça fait depuis des années et des années que je le dis.
Le fourrier de l'islamisme.
Mais moi, ça fait des années que je le dis, que je l'ai écrit. Je fais partie de ces quelques Français qui voyagent beaucoup dans ces régions-là, qui ont tenu à informer un certain nombre d'autorités, tenu à informer un certain nombre de circuits sur... l'émergence de mouvements de fond dans l'ensemble de ces pays. Il y a des pays que je connais très très bien et sur lesquels, déjà il y a 5 ans, 6 ans, j'avais diagnostiqué ces mutations profondes qui étaient en train de se passer dans ces biotopes.
Mais ces mutations ne sont pas quand même porteuses de certains espoirs, de certains germes intéressants.
Ça dépend comment vous prenez les choses.
On a quand même l'impression qu'il y a une jeunesse arabo-musulmane qui est en train d'entrer avec toutes les difficultés dans la modernité. Alors c'est peut-être et chez eux d'ailleurs en suscitant de très fortes réactions des structures traditionnelles. Mais est-ce que c'est pas quand même un espoir pour eux et pour nous?
Oui, mais là-dessus je crois que si vous voulez, c'est là où l'exercice est difficile parce que il y a une attente considérable de la part de ces jeunesses. À qui on a
je pense que c'est ce qui est, non, je non, pense mais... que c'est au moins la seule chose qui était vraie dans le discours médiatique qui nous a été proposé sur ces événements.
Non mais je ne la conteste pas, j'ai même fait pas mal de prises de parole y compris dans ces pays-là pour évoquer cette émergence des compétences de cette jeunesse et en même temps de nouvelles formes de classe moyenne qui commencent à se structurer dans ces pays.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Mais pour ça, vous pensez qu'il n'y avait pas besoin de printemps arabe pour continuer l'histoire dans ce sens?
Je pense que si vous voulez, c'est tous ces pays-là sont pris dans une espèce de broyeur. Pour ça, il faut aller sur le terrain. Il faut beaucoup voyager dans ces pays-là. Il faut pas simplement fréquenter uniquement les pointes de diamant ou les têtes de ces sociétés, les élites de ces sociétés, parce que c'est juste sûr que quand vous allez par exemple au Maroc, que vous allez à Rabat, que vous fréquentez que Marrakech, etc., avec les élites européennes qui côtoient le cercle initié
marocain
qui vit des prébendes et je dirais des revenus de toutes les franchises que nous avons signées avec eux pour développer une délocalisation ou du low cost au Maroc, c'est sûr que vous avez une vision déformée de ce qui se passe au Maroc. Si par exemple vous allez dans les banlieues de Casablanca, de Tanger, de Meknès, de Fès, de toutes les villes marocaines, vous apercevez que ce pays a été amené à absorber en l'espace de 10-15 ans des migrations de population considérables venant des montagnes, des campagnes, etc. Et venant sur les villes, quoi. Je veux dire, venant épouser ce modèle que nous avons exporté avec des jeunesses qui ont bénéficié, notamment pour ceux qui étaient les plus favorisés de logique éducative, qui donc s'attendaient à avoir une employabilité qui ne soit pas simplement une employabilité de low cost, mais une employabilité liée au développement du pays. Et il y a eu, comme toujours dans ces zones-là où on n'a pas su accompagner en termes d'ingénierie de développement, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça fait depuis 30 ans qu'on est dans une espèce d'indolence, de jouissance, ou dividendes de la paix, etc., qu'on n'a pas été sur une vision...
D'accord, mais pas eux, ces populations.
Non, mais je ne parle pas des populations, je parle de la relation entre nos pays ces pays émergents, où on aurait pu aider, je dirais, les gouvernances de ces pays à construire des vraies stratégies de développement plutôt que des stratégies de prise d'otage, je dirais, des revenus de délocalisation et du low cost.
Oui, il y a une opportunité qui a été perdue.
On a laissé s'installer les premiers cercles autour de ce qu'on appelle les despotes aujourd'hui, enfin des dirigeants de ces régimes, qui n'ont pas eu l'intelligence de construire des transferts de revenus voire même des continuums, si vous voulez, de création de richesse.
Vers les plus pauvres.
Non, mais déjà même vers le haut et le milieu de la classe moyenne. Mmh. Et donc c'est ce milieu et ce haut de la classe moyenne
qui manque,
qui en a par-dessus la tête.
Oui. Et qui a donc une fois de plus, c'est la bourgeoisie petite ou grande qui fait la révolution.
Oui, oui. Et quand vous allez sur le terrain et que vous discutez...
Ça nous rappelle quelque chose.
Mais quand vous allez sur le terrain et que vous discutez avec... des responsables de petites entreprises, de tous ceux qui font la vie associative,
économique,
oui, y compris même des élus locaux, etc. Ils vous disent le premier, pour prendre le cas du Maroc, ils vous disent le premier, mais nous on a soutenu le PJD. Ça me rappelle exactement ce qui s'est passé en Iran quand la bourgeoisie iranienne a soutenu les ayatollahs contre les grands du foncier et même l'aristocratie militaire.
Le PJD, rappelé pour nos auditeurs.
Parti Justice et Développement. Là, par exemple, pour prendre le cas du Maroc, on est sur une situation très particulière et singulière par rapport à la Tunisie, à la Libye.
Oui, parce que là, il n'y a pas eu ce fameux printemps. Hein. Le roi reste toujours la clé de voûte du système.
Parce que là, puisque vous évoquez cette espèce de maïotique entre, d'un côté, il y a une théocratie, de l'autre côté, il y a quand même un système avec une constitution, un système démocratique, et puis il y a en même temps ces partis qui sont dans une certaine forme, je dirais, d'islamiser, enfin qui porte une islamisation de la société, ou qui porte du moins une revendication de l'islamisation de la société. Il faut bien voir quand même les choses, c'est que quand vous allez dans les quartiers populeux de Gaza, de Meknès, de Fès, etc., il faut voir dans quel niveau se situe la population. Cette population-là, elle est concentrée dans les villes. Beaucoup ne parlent pas l'arabe, beaucoup ne sont pas dans les niveaux éducatifs qui peuvent être acceptables en termes de pour rentrer dans la modernité. Donc il y a une précarité, il y a une pauvreté énorme. Donc vous avez.
Et si on parle de l'Égypte et de la Tunisie, c'est encore pire.
Donc vous ne pouvez pas avoir autre chose, si vous voulez, qu'une situation un peu confuse où vous avez autour des élites ou du moins de ce haut de classe moyenne une espérance démocratique très forte, très très forte, et des masses qui sont dans cette espèce de
d'étau,
parce que comme on essaye de faire, comme on leur a promis, si vous voulez, d'accéder à cette modernité en l'espace de 15-20 ans, là où nous, on a mis un demi-siècle, voire un siècle, pour arriver sur plusieurs générations à l'assumer et en avoir la maturité, c'est évident qu'on est sur des trucs explosifs.
En fait, pour eux, l'islamisme, c'est les soviets plus l'électricité.
Oui, et avec en plus de ça, quelque chose que moi je connais bien par rapport au monde musulman, une équité de traitement. J'ai bien, je pèse mes mots. Une équité de traitement, parce que au travers de la religion et de la zoukat et des principes de la les principes islamiques, qui est celui quand même de la redistribution.
Mais vous dites que dur peut-être, mais juste en tout cas, équitable en tout cas, puisque tout le monde est soumis à la même règle.
C'est
cette règle islamique.
C'est pour ça qu'ils utilisent.
D'où cette attente et cette islamisation qui fait si peur finalement à l'Occident. Mais doit-on en avoir peur de ça?
Oui, parce qu'elle fait peur, parce que nous on est sur ce principe d'égalité de traitement, d'accord, et on crée des déséquilibres, des inégalités flagrantes. Dans l'islam, un des cinq principes de l'islam, il y a ce principe d'équité de traitement. Et quand vous allez par exemple voir comment fonctionnent les frères musulmans dans la répartition notamment de l'accompagnement des populations, c'est assez remarquable. Enfin, moi, je suis assez bluffé.
Vous êtes en train de dire, Xavier Guillou, que si on laisse les scories de l'islamisme derrière nous en termes de violence symbolique et réelle, de différence de perception du monde, il y a finalement l'introduction d'une forme de modernité dans ces pays grâce à l'islamisme, par rapport à un système extrêmement injuste et féodal dans la caricature.
Je ne sais pas si c'est...
Il y a un point d'interrogation ma phrase.
Non, je ne sais pas, si c'est un principe de modernité. Je pense que c'est un principe de survivance. Si les frères musulmans, si les islamistes ne pratiquent pas comme ça et ne répartissent pas une partie maintenant qu'ils sont au pouvoir de la fiscalité et avant... de la zoukate,
ils reperdront.
Les systèmes sont intenables, d'accord. Je crois qu'il faut être très réaliste. Les systèmes sont intenables. Il faut voir que dès que vous avez la moindre augmentation sur les prix des céréales, le prix de la farine monte et vous pouvez avoir n'importe quelle émeute sur le terrain.
Émeute parce que les gens n'ont plus de quoi manger. Il faut le rappeler aux auditeurs.
Mais oui. Je veux dire, avant d'aller sur des grandes réflexions sur ce qu'est la démocratie dans les pays arabes, il faut quand même aller se promener dans ces quartiers, voir dans quelle misère se situe misère physique, misère alimentaire, sanitaire, humanitaire, enfin je veux dire, Et en plus, ça, c'est sur des masses considérables. Quand vous allez en Égypte,
vous êtes dizaines de millions de personnes.
Oui, vous êtes sur un bassin de plus de 100 millions d'habitants. Bon, voilà. Vous n'avez pas forcément ça en Iran ou en Turquie, d'accord? Là,
oui,
on parle des systèmes plus élaborés.
Oui, oui,
d'accord?
Restons sur ce pourtour méditerranéen qui nous importe.
Plutôt sunnite, voilà.
Et qui nous inquiète. Donc, vous dites que finalement, l'islamisme, il faut s'en accommoder.
De toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire?
Vous dites que ce n'est pas forcément une menace, ni même la menace majeure. C'est le passage. Alors voilà, moi j'aimerais savoir un peu votre avis sur cette adhésion de toutes ces populations, pour les raisons qu'on a parfaitement comprises, mais cette adhésion de ces populations à ce message islamique.
Alors, bon, d'abord,
je dis bien message islamique et pas de l'islam.
Parce que là-dessus, on est très confus dans nos appréciations.
Non, j'emploie volontairement la frange la plus radicale, si on préfère, même si le mot est évidemment avec nos propres structures intellectuelles.
Oui, moi ce que je pense que de toute façon on sera obligé de faire avec, parce que tous ceux qui aujourd'hui sont ou dans le déni de réalité ou dans de fausses approches vertueuses sur les rapports interreligieux ou intercommunautaires, sont souvent des imposteurs. Je pense qu'on est obligé de faire avec, parce que de toute façon, vous avez, quand vous regardez l'ensemble du monde musulman, c'est 1 milliard d'individus. Sur ce milliard d'individus, vous avez quelques zones qui ont soit par des rentes de situation, comme les rentes pétrolières ou gazières, des moyens qui ne sont pas forcément gérés de manière optimale, ou soit des modes de gouvernance, comme on prend par exemple le monde musulman asiatique, qui sont très différentes du monde arabo-musulman, et où en effet les terrains sont mieux tenus. Bon, là où se pose le problème, c'est sur le pourtour de la Méditerranée, et essentiellement dans le monde sunnite, plus que dans le monde chiite ou dans le monde turc. Voilà. Donc, pour être très clair. Donc, c'est plutôt le monde sunnite qui est confronté aujourd'hui à des turbulences internes très fortes et qui sont liées, en plus de ça, à une certaine vision de l'islam, hein, qui est un islam pur et dur. Dans cette vision de l'islam, il y a certains piliers qui permettent de garantir aux populations un traitement un peu plus équitable, je dirais, que ce que les grands despotes de ces régions avaient mis en place au cours des 30 dernières années avec notre bienveillance. Parce que j'ai oublié quand même qu'on les a tous soutenus quand même dans ce mode de gouvernance. On les a pas accompagnés dans une transition de gouvernance, on les a plutôt soutenus et enferrés, voire bunkérisés dans ces logiques de gouvernance. C'est là où je dis qu'on a manqué de vision et de anticipation et d'audace par rapport à ces
situations. On a fait semblant de croire qu'il serait là éternellement.
Oui, enfin, je pense qu'on était même encore plus stupide que ça. On a pensé que on pouvait les maintenir comme ça pendant longtemps. On pensait que on pouvait se faire, comme on est très cupide, on pouvait se faire beaucoup d'argent par ce biais-là et que puis que les problèmes seraient pour les autres générations, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'on n'est même pas été dans un niveau de réflexion aussi élaborée. Donc, je crains
c'est que... assez désespérant, Xavier Guillaume, nos élites.
Non, mais je vois bien nos hommes politiques. Enfin, ils passent tous les 2 ans ou 4 ans, ils vont faire leur séjour à Tunis ou à Marrakech, etc. Ils sont contents, ils ont fait 2-3 fois des tours dans des piscines, dans des riades luxueuses, etc. Ils croient connaître ces pays-là. Et puis, il n'y a aucune stratégie de fond, il n'y a pas de choses structurantes, si vous voulez, pour accompagner ce pays. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec d'un côté ces logiques d'accompagnement, je dirais, des populations qui sont assumées par les, notamment par les représentants d'un islamisme un peu plus rigoureux, et ça se traduit par l'obligation pour les populations d'adhérer à une certaine vision de l'islam. Alors c'est là où derrière vous avez des affrontements à l'intérieur du monde arabo-musulman. Quand nous on se fait très peur sur les problèmes intercommunautaires chez nous, mais il faut bien être conscient que la vraie guerre aujourd'hui, la vraie guerre est interne au monde musulman, entre les rites, entre les différents rites. C'est sûr que par exemple l'exemple du roi du Maroc est assez intéressant à suivre, parce que lui joue un rôle de régulateur entre une certaine vision théocratique avec son conseil des ulema, sur justement une islamisation qui, mais où les préceptes de la charia ne prennent pas le dessus sur les principes démocratiques qui l'a fait lui et son père, ce roi Hassan II, rentrer dans la gouvernance du pays. C'est un peu ce qu'on trouve aussi d'une autre manière plus perverse quand même en Turquie, où Erdogan a fait rentrer une espèce de, et sur un islamisme séculier qui du reste même intéresse beaucoup de pays du Maghreb. C'est pas du tout le cas de ce que l'on a sur la Tunisie ou sur l'Égypte aujourd'hui, et encore plus sur la Libye, où là c'est un peu confus, où là c'est plutôt le rite, les rites salafistes, wahhabites, qui sont, bon, moi que j'ai du mal à, que j'ai du mal à admettre, parce que on, là sur, on est, alors notamment pour les tenants des droits de l'homme et tout ça, là on est sur des logiques où, notamment vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de des enfants, vis-à-vis de l'organisation de la société, etc. On est sur des choses qui
très
sont
dures,
extrêmement dures. Enfin, je veux dire, les gens ne se rendent pas compte. Bon. Or, ces logiques-là que l'on a avec les Saoudiens, les Qataris, etc., aujourd'hui bénéficiant d'une rente pétrolière et gazière dont on n'imagine pas, les niveaux, ont des capacités d'entrisme, de déstabilisation des pays. On les retrouve sur la Syrie aujourd'hui.
Alors justement, Xavier Guillou, c'est quand même l'actualité. Que se passe-t-il en Syrie, puisque vous avez ceux qui disent Bachar el-Assad est un véritable tyran et que si ça continue, il va falloir que ça cesse. Et d'autres qui disent que si c'est pour avoir le même succès que nous avons eu en Libye et ailleurs dans la transition économique et politique, on ferait bien de rester chez nous. Que faut-il donc comprendre de cette Syrie ?
D'abord, je pense que faut arrêter de penser qu'il n'y a que l'Occident qui a la bonne parole et les bonnes idées pour s'occuper des autres. Hein. Donc, je pense que là-dessus, avant de faire de l'entrisme dans les, je dirais, dans la vie des nations, il faudrait peut-être déjà qu'on clarifie.
Ah, mais nous, on adore avoir un avis sur tout, vous savez bien. Surtout un avis.
Oui, donc, oui, surtout un avis. Oui. Donc, je pense, si vous voulez, que sur cette affaire syrienne, on est sur des niveaux de complexité. Bon, j'invite vos auditeurs à aller sur mon site. J'ai écrit un papier pour DiploWeb qui s'appelle L'énigme syrienne, qui m'a valu de passer sur plusieurs chaînes de radio, parce que justement, j'ai pris un peu le contre-pied de ce qui était évoqué, on est dans une espèce de
en un mot, que se passe-t-il,
guerre de propagande aujourd'hui, et dont les
que se passe-t-il en Syrie, et que devons-nous faire ou pas faire?
Vous avez plusieurs choses sur la Syrie. La première, c'est bon, on est sur cette stratégie qui a été mise en place déjà depuis 20 ans, notamment derrière l'Amérique, après la chute du mur et tout ça, ces stratégies dites de grand Moyen-Orient, ou américains avec, je dirais pas leurs alliés, mais leurs affiliés saoudiens et émiratis, ont essayé de reprendre en main toute cette Mésopotamie, enfin toute cette zone assez stratégique, qui est complexe, puisqu'on retrouve à la fois du chiite, du sunnite, des minorités chrétiennes, arméniennes, kurdes, etc. Essayer de reprendre en main tout ça et de mettre tout ça sous gouvernance sunnite, et d'avoir une espèce de glacis
sunnite au Moyen-Orient,
voilà, qui permet de pouvoir avoir la mainmise
sur le pétrole
et d'avoir
de laisser sous une sorte de chape de plomb les populations, pour éviter d'avoir à discuter avec des peuples disposant au moins en partie librement d'eux-mêmes.
Oui, et puis en même temps avec une stratégie leur un peu plus long terme là, parce que les Américains, contrairement à nous Européens, ont quand même une stratégie un peu plus long terme là-dessus. Parce qu'ils sont challengés quand même par les Chinois de l'autre côté, notamment sur le Pacifique.
Mise au défi.
Nord. Oui, oui, tout à fait. Enfin, ça c'est pour respecter Radio Courtoisie. Oui. Je suis bon pour mettre une pièce là. Non, mais ils sont vraiment dans une logique de défi. Faut se rappeler quand même que sur l'ensemble de ce proche Moyen-Orient européen et après américain, on construit une ingénierie de tenue du terrain Alors d'abord les Européens, après le, je rappelle toujours parce que c'est quand même l'histoire. Enfin, là, j'invite vos, les auditeurs à prendre le temps de se replonger dans des atlas historiques et de se, et d'avoir une carte sous leurs yeux, oui. Bien comprendre l'enchevêtrement des enjeux. Mais faut se rappeler quand même que derrière cette grande guerre fratricide de la Première Guerre mondiale, nous avons démantelé l'Empire, le Saint-Empire germanique, nous avons démantelé l'Empire ottoman. Les Anglais et les Français ont pris la main, notamment sur ce proche Moyen-Orient, derrière les accords Sykes-Picot. C'est comme ça que nous avons constitué les embryons de grandes compagnies pétrolières, dont la CFP qui est devenue Total, qui avait la responsabilité de Mossoul. Et les Anglais se sont retrouvés avec le contrôle de Basra au sud, dans la zone chiite, à la fois irakienne et iranienne. Donc ça, c'était la première phase. La deuxième phase, sur la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Américains qui ont repris la main. Derrière les accords de Quincy, où Roosevelt a fait venir la famille Saoud, a garanti à la famille Saoud, pas l'Arabie Saoudite, à la famille Saoud.
Il y a une sorte de pacte.
Un pacte.
Enfin, sous une forme presque ancestrale. Entre...
Oui, c'est un deal, comme
dans le business.
Une deuxième fois, mais une espèce d'accord stratégique à l'américaine. C'est pour ça que j'utilise le terme de deal.
Oui, oui.
C'est des coups de poker, c'est des, bon, on pactise avec une famille, on lui garantit sa sécurité, et la famille
et
doit.
On fait des affaires ensemble.
Ouais, et la famille doit nous assurer un libre accès pour, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a contingenté, notamment les puits les plus intéressants qui sont sur l'Arabie Saoudite et les Émirats. Et progressivement, on n'a pas pu prendre le contrôle de la Mésopotamie, puisque c'est là où vous avez eu dans cette guerre froide, vous avez eu des bascules, notamment avec l'arrivée de nationalistes plutôt laïques, même aidés par l'Union soviétique derrière, avec la création du Parti Basse en Irak, la création du Parti Basse en Syrie, etc. Avec notamment l'élimination d'un certain nombre de dirigeants sunnites qui étaient importants, dont le roi Hussein en Irak, et puis même les sunnites en Syrie qui ont été remplacés par les alaouites à l'époque. Bon. Donc il y a eu toujours cette tentation de reprendre la main sur ce grand corridor. Donc la première guerre d'Irak, deuxième qu'on connaît, qui débouche sur une prise du pouvoir par les chiites.
On voit remonter en puissance les chiites.
Oui, parce que là, on a un grand bassin démographique qui est incompressible.
Mais qui pourrait être un contrepoint et un contrepoids intéressant au sunnisme qui se développe à l'ouest.
Oui, alors là-dessus, c'est pareil. Là-dessus, il faut remonter sur toute cette ingénierie diplomatique et politique, voire stratégique qu'on a mis en œuvre mais dès la fin du 19e siècle, où pour pouvoir tenir ces régions-là, nous avons... notamment nous les Français et les Anglais qui ont comme une ingénierie quand on regarde les affrontements entre les grands impérialismes français, anglais et américains, nous notre stratégie a toujours été de travailler à partir des minorités pour éviter que les grands blocs civilisationnels nous éliminent du terrain. Voilà, pour être très clair. Donc on a toujours fait en sorte de mettre en place des mandats ou des mandatements pour protéger les minorités afin que les grands blocs ne s'affrontent pas et ne viennent pas, déstabiliser le terrain. C'est comme ça. Et en plus, vous faites intervenir les géographes, vous faites des contours de frontières qui font en sorte que les grands blocs ne puissent pas s'affronter. Dans cette stratégie-là, la tentation est très forte depuis 20 ans pour les Américains avec leurs affiliés sunnites. D'organiser ce contrôle de cette zone-là pour tenir à distance la pression du Chinois ou la pression d'autres acteurs. Voilà.
D'où la volonté de changer de minorité au pouvoir en Syrie.
Alors ça va plus loin que ça, parce que faut bien voir que nos bédouins de la péninsule arabique et des Émirats, dans l'histoire du monde arabo-musulman, aucune légitimité intellectuelle, politique, voire spirituelle.
Ou même militaire.
Et militaire, mais surtout spirituelle par rapport à l'ensemble du monde arabo-musulman et de ce qu'a été l'histoire. Donc prendre une ville comme Bagdad, prendre une ville comme, surtout une ville comme Damas, qui sont très emblématiques
évidemment,
sur le plan historique, en termes de ce que ça peut représenter par rapport à l'histoire du monde, du monde arabo-musulman.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie.
Et surtout Damas. Surtout Damas, avec le califat des Omeyyades qui a été dans l'histoire du monde arabo-musulman, une très grande histoire, très riche sur le plan intellectuel, etc.
Dans la Bible, Damas est quand même à plusieurs reprises.
Non, mais c'est absolument pour eux nécessaire, quoi. Voilà, pour pouvoir s'installer. Et je dirais même que le temps presse, puisque comme on est dans cette transition énergétique, il se peut très bien, vous l'avez cité tout à l'heure, les Américains sont en train de retravailler leur autonomie énergétique, tout le monde est en train de retravailler, je veux dire, sa stratégie, puisqu'on ne peut pas agir trop sur l'offre, on va travailler sur la demande. Regardez par exemple le discours du Premier ministre qui demande à ce qu'on conçoive des voitures qui ne consomment plus que 2 litres au 100. Enfin bon, je veux dire, donc non, mais tout le monde est en train de travailler sur une reconfiguration de la problématique offre-demande, transition énergétique. À mon avis, on va y arriver sur les 20-30 ans qui viennent, voire même transformer peut-être même la matrice. Et eux se voient bien aujourd'hui que s'ils ne prennent pas le pouvoir maintenant.
Oui, dans un vaste espace géographique, ils seront balayés.
Voilà. Et donc tout ça, il faut le repenser, si vous voulez, à l'échelle de ce qu'a été l'histoire du monde arabo-musulman, avec les différents types de califats qui se sont opposés, qui se sont constitués, etc. Donc c'est tout, pour eux, c'est alors, presque une nécessité, non pas uniquement pour contrôler un territoire, mais c'est une nécessité stratégique et historique pour exister dans ce monde-là. Voilà.
Je rappelle à nos auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Courtoisie que j'ai le plaisir de recevoir Xavier Guillou, spécialiste des questions internationales, et nous nous entretenons donc autour des grands mouvements qui vont structurer le monde d'aujourd'hui et de demain, et nous parlions du monde arabo-musulman, mais il y a dans ce monde arabo-musulman un point particulier qui s'appelle Israël, et aujourd'hui on entend quand même beaucoup d'interrogations sur une éventuelle action des Israéliens contre l'Iran et ses installations nucléaires réelles ou supposées. Qu'en est-il? Et certains disent même que les Israéliens seraient capables de déclencher cette guerre, je ne sais pas si c'est une guerre, mais en tout cas ce raid dans un délai très très court eu égard à l'agenda politique des grands de ce monde.
Oui, alors là-dessus, il y a plusieurs choses. D'abord, pour conclure sur le point précédent, je rappelle quand même à tout le monde que la Syrie n'est pas simplement qu'un enjeu, enfin Damas, la prise de Damas n'est pas qu'un enjeu politique, c'est aussi, on est sur un corridor où vous avez, en termes de sécurité énergétique, tous les grands pipelines qui passent et qui vont pour approvisionner l'Europe et même la Chine.
Mais le nouveau régime en Syrie pourrait très bien être stable.
Oui, tout à fait. Moi, je pense que là-dessus, bon, moi je suis aujourd'hui de ceux qui disent, bon, c'est... D'accord, faire partir Bachar el-Assad, bon, c'est pourquoi pas, enfin, je veux dire, mais essayons de nous poser des questions de fond. C'est comme pour l'affaire de Kadhafi en Libye, c'est quoi le but de guerre? Bon, qu'est-ce qu'on met derrière? Et qu'est-ce qu'on aura, quoi? Donc, aujourd'hui, peut-être que le vrai chantier, c'est d'organiser avec ce qu'on appelle l'opposition, enfin du moins les corps constitués, et de prendre le temps de le faire, sans s'engager dans un processus, sans légitimer un processus de guerre civile qui va derrière développer tout un chapelet d'instabilité sur l'ensemble de la zone, d'essayer de faire comme ça s'est passé en Tunisie ou en Égypte, de sortir Bachar el-Assad et de faire en sorte que on n'aille pas vers un chaos en Syrie. Là-dessus, vous avez, et c'est là où les Saoudiens, les Qataris, etc., et les Américains se trouvent face à un bug, c'est que les Chinois, les Russes et même les Turcs et surtout les Iraniens verrouillent aujourd'hui le terrain et bloquent toute velléité, je dirais, d'opérations militaires. Je crois que les Américains l'ont bien compris. Là-dedans, vous avez dans ce paysage-là, vous avez en effet Israël. Alors Israël, c'est pas neutre, hein, parce que moi j'ai tendance à dire toujours que quand on me dit Israël est un problème, je dis oui, c'est un problème, mais c'est aussi c'est pas le problème, c'est aussi notre problème, Et c'est un peu tout, quoi, parce que Israël fait partie aussi quand même des inventions que l'Occident a créées au XXe siècle. Et donc, dans ce monde sémitique, on a créé une verrue qui, surtout avec le principe de territorialité, qui n'a jamais été admis par le monde arabe, et qui a développé des niveaux de tension qu'on connaît. Alors, par rapport à ces niveaux de tension, je pense que la problématique d'Israël, elle est assez neuve aujourd'hui, parce que vous avez deux générations qui s'affrontent à l'intérieur du contexte israélien. Il y a celle qui a vécu l'aventure du sionisme, qui a eu à faire face au nationalisme arabe, tout ça dans une démarche très laïque au départ, et idéologique, hein, qui a vécu le Kippour, la guerre des six jours, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer, jusqu'aux opérations paix en Galilée, au Liban, etc., qui est plutôt une génération qui a vécu sur une instrumentalisation de la menace, une menace lourde qu'il fallait traiter à coups d'avion et de char, donc en se projetant le plus loin possible pour neutraliser. C'est cette génération-là qui est sur tout le débat iranien aujourd'hui. Qui est très lié au complexe, à certains complexes militaires
qui veut frapper américain, pour dire les choses
qui veut frapper pour pouvoir maintenir cette espèce de statu quo où Israël est toujours plus puissant, etc. Et puis il y a une deuxième génération qui est celle qui vient qui n'est pas séfarade, qui est plutôt Askenaz, qui est venu en Israël avec les réfugiés, qui en plus de ça est beaucoup plus non pas dans l'industriel mais dans les hautes technologies, qui alimente tous les grands laboratoires de ce corridor entre Netanya et Tel Aviv, mais qui aussi a vécu son service militaire et puis ses périodes de réserve pour faire face à l'intifada, Gaza, Cisjordanie, Jéricho, Ramallah et compagnie, et qui a vécu la guerre du Sud-Liban. Et qui s'est trouvé en opposition avec l'autre génération sur la méthode et les moyens. Et cette génération-là dit, attention, notre vraie menace, c'est pas forcément peut-être l'Iran, même s'il y a indéniablement la problématique nucléaire, c'est peut-être ce qui est en train de se passer sur la Syrie et ailleurs, et surtout en Égypte, avec l'arrivée de salafistes qui prendraient le pouvoir, et où on aurait un chapelet
d'états très radicaux vis-à-vis d'Israël.
Et très dur.
Et très dur.
Très dur. Mais avec des stratégies de déstabilisation qui passeraient par un entrisme par le bas, et non plus par, des attaques par le haut, comme imaginer par l'Iran. Et donc, on a une espèce de jeu interne très complexe. Et avec en plus de ça des lobbies extérieurs qui s'agitent. On voit bien que les lobbies israéliens proches de Netanyahou remenaient aujourd'hui dans le jeu des élections américaines et qui sont favorables plutôt à une autre aventure militaire pour pouvoir réaffirmer. Voilà. Cette aventure militaire, on pourrait l'imaginer, en effet, je pense pas sur la fin d'année, parce que peut-être que les Israéliens, ils sont maîtres du jeu, hein, ils sont sur des logiques de survivance. Ils n'ont pas besoin de demander la permission à quiconque, hein, et on peut les comprendre. Je ne pense pas que ce soit sur la fin d'année, parce que ça ne sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'il va y avoir en 2013. En 2013, vous savez, on sort de 2012, où on a eu 22 élections au niveau mondial. 80% du PIB mondial était en logique électorale. Et avec quand même des acteurs non négligeables, la Chine et les États-Unis en ce moment, mais la France, plein de pays, si vous voulez, majeurs. Ça, c'est derrière, ça va être derrière nous, hein, à la fin d'année. Et vous avez sur le début 2013, notamment sur l'été 2013, plusieurs élections qui sont importantes, sensibles. Hein. Vous avez l'Allemagne, vous avez le Japon, avec le retour des nationalistes, puisque regardez ce qui est passé avec Shinzo Abe, qui a repris le contrôle du Parti conservateur, et qui est important. Et puis, vous avez l'Iran. Et je pense que on est dans un rendez-vous où c'est très tentant pour Israël de provoquer, si vous voulez, quelque chose qui permette un changement de gouvernance, ou du moins, parce que c'est très compliqué sur l'Iran aujourd'hui au niveau de la gouvernance interne. Et donc, il y a une pression qui est organisée. Amir Hirat, de toute façon, va sortir du jeu, mais il peut très bien être tenté de prendre le pouvoir par d'autres manières que des méthodes, si vous voulez, électorales. Voilà.
Alors, Xavier Guillou, puisque nous approchons de cette fin d'émission, j'aimerais que nous revenions quand même en Europe et en France. Vous avez parlé de 2013, et je crois qu'il faut s'interroger
non plus tellement sur les difficultés des autres, mais sur les nôtres. Et justement, j'aimerais un petit peu savoir comment vous voyez pour l'Europe, pour l'euro, et pour la France tout particulièrement, cette année 2013, et à quels défis nous devons particulièrement faire face.
Alors, je pense que 2012, on passe 2012 sans trop de difficultés, parce que...
Il n'y a plus tellement de semaines à tenir.
Non, mais on va passer 2012 sans trop de difficultés. Enfin, le gouvernement a trouvé ce qu'il fallait, il a réussi à faire passer les pilules. En plus de ça, ce qu'on craignait avec les Allemands ne s'est pas produit tout de suite, parce qu'il ne faut pas mettre en situation délicate Angela Merkel par rapport à son échéance électorale de 2013. Donc on a bénéficié, je dirais, de quelques mois de temporisation. Sur 2013, je suis un peu plus inquiet, hein, parce que c'est pas 6-7 milliards qu'il faut trouver. À mon avis, c'est pas 40, ça va être plutôt 60.
60.
Oui, parce que on va avoir du renchérissement sur le coût du baril, on va avoir des tensions. On n'intègre pas, si vous voulez,
les 60, Xavier Guillou, c'est le montant total à peu de choses près de l'impôt sur le revenu.
Oui, mais c'est comme ça. Bon, je veux dire, moi, ce que je vois, c'est qu'on sera sur des glissements beaucoup plus important, parce que les calculs qui ont été faits sur le plan budgétaire sont basés sur les taux de croissance qu'on ne réalisera pas. On n'intègre pas les phénomènes exogènes, donc on n'intègre pas ce qui est en train de se passer au niveau du monde et qui peut tendre territorialement, puisqu'on a des bruits de bottes, on peut avoir aussi des guerres, donc on n'intègre pas. On pense qu'on est en situation étale, on se retrouvera avec des contraintes financières lourdes. Au-delà de ces contraintes financières lourdes, on peut très bien avoir des effets de surprise, notamment côté allemand, parce que la pression est très forte. Bon, Angela Merkel va essayer de jouer une nouvelle coalition, mais la pression est très très forte aujourd'hui à l'intérieur de l'Allemagne pour sortir de l'euro. Et donc on peut très bien avoir des scénarios.
Vous dites que, par exemple,
la France sera au mieux au pied du mur, France sera au mieux au pied du mur, et selon le delta financier, on sera dans le jeu ou hors du jeu.
Et hors du jeu, ça veut dire quoi concrètement?
Ça veut dire qu'on sort
de l'euro,
on sera considéré comme l'Italie, comme l'Espagne, etc.
C'est-à-dire qu'on a un problème sur notre dette, on n'arrive plus
Oui. Enfin, aujourd'hui, pour l'instant, on n'est pas considéré comme en logique de défaillance ou failli.
Ça peut changer du jour au lendemain.
Mais oui, si jamais l'Espagne démarre, les principes qui ont été mis en œuvre par le tribunal de Karlsruhe, seront activés. Tout passera à ce moment-là devant le Bundestag, et la pression allemande sera telle qu'à un moment donné, on va être obligé de trancher. Et comme on est sur un casting politique assez mou, on ne pourra pas tenir tête à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des discours assez hégémoniques allemands qui n'ont plus envie aujourd'hui de continuer dans Donc on se retrouvera dans une situation de choc. Et moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait « Quand la France réagira ». Je ne suis pas sûr que la France soit capable de réagir aujourd'hui.
En tout cas, pas avant la crise.
Il y a 5-6 ans qu'on avait encore des éléments de ressort pour pouvoir réagir. Aujourd'hui, je pense que les gens seront ils commencent déjà à rentrer dans une logique d'état de sidération. Ils se disent,
on disait un petit peu en début d'émission, le pouls de l'opinion.
Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas pour nous. Non, est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Alors les politiques disent, oui, vous avez encore un petit peu de temps. Alors, on a trouvé 150 millions d'euros pour les banlieues, on a trouvé ceci, on a trouvé cela. Enfin, surtout
Et vous dites, non, on n'a plus le temps. Et en plus, 2013, c'est potentiellement un risque majeur d'une crise, qu'elle soit bancaire, qu'elle soit monétaire avec une sortie de l'euro non coordonnée, ou même d'une crise de la dette.
Je ne vois pas, si vous voulez, aujourd'hui, une capacité de réaction du pays qui soit coordonnée, qui soit forte, et qui soit en même temps à la fois cohérente et avec un niveau de cohésion nationale qui s'exprime. Je verrais plutôt une sorte d'implosion du système, et avec des choses qui seront très désordonnées, pas forcément chaotiques, parce qu'on a des moyens, on a de la ressource, très désordonnées, provoquant une sorte de fractalisation de notre société qui est déjà assez branlée et assez fissurée, et avec des gens qui vont réagir de façon dispersée, désordonnée, etc., avec des collectifs qui vont s'exprimer partout, sans conscience politique, parce qu'aujourd'hui, On est devenu un peu débile, je suis désolé de dire ça, mais on est devenu un peu débile sur le plan de la conscience politique. Et tout ça sera instrumentalisé par des faux clercs qui vont occuper l'arène, jusqu'à ce que on arrive à une situation qui sera insupportable. Moi, je pense qu'on rentre dans un scénario que je connais bien, que j'ai évoqué maintes fois, qui est le scénario argentin. Donc,
rappelons en un mot pour nos auditeurs.
Ouais, le scénario argentin, c'est l'Argentine s'est entretenue pendant quasiment un demi-siècle dans l'illusion qu'ils étaient toujours la huitième puissance mondiale. Et puis du jour au lendemain, après des bricolages financiers qu'on connaît bien, enfin bon, des surenchères bancaires et financières, bah, les comptes ont été remis à zéro. Et puis les gens sont
eu des blocages brutal.
Et ça a été très brutal du jour au lendemain. En l'espace de 15 jours, les gens ont vu leurs comptes bancaires bloqués, la situation en termes de gouvernance et en termes économiques s'effondrer. Et un an après, ce qui valait 100 ne valait plus que 30. Et il y a eu spoliation de la classe moyenne. Et et le pays après est rentré dans un mode de gouvernance beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus populiste qu'on connaît aujourd'hui. Donc ils s'en sont sortis momentanément avec un nettoyage des dettes, mais qui s'est fait sur le dos de la population. Et je pense que c'est ce qui nous attend, puisque de toute façon, on est dans une logique plutôt indolente.
Oui, on ne veut pas faire face au problème.
Et je pense qu'il y aura une prise d'otage des clercs, et des clercs et des faux clercs. Voilà. Et que malheureusement, les Français qui se sont entretenus pendant 30 ans dans des illusions d'optique et puis dans une fausse jouissance, vont être amenés à le payer aujourd'hui dans un contexte international où on a des bruits de bottes, on a une poutinisation, je dirais, d'un certain nombre de dirigeants, et puis on a aussi des zones qui se cherchent, comme l'ensemble du monde arabo-musulman, et avec des pulsions pour lesquelles on n'en est que tout début.
Xavier Guillou, un très grand merci pour ce panorama tout à fait passionnant sur le monde qui nous entoure, mais aussi sur notre monde à nous et sur ce qui risque de nous arriver. Amis auditeurs, je vous donne rendez-vous évidemment pour le futur et en tout cas pour nous, à dans 4 semaines.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des lycéens, dirigé par Hugues Sérapion, émission préenregistrée le 29 septembre 2012, diffusée pour la première fois le samedi 24 novembre 2012, de midi à 13h30, puis l'après-midi de 16h à 17h30, et dimanche 25 novembre dans la nuit de minuit à 1h30. Cette émission a été réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez la cassette pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.